L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bâtard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Mes merveilleuses pépites, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Ce soir, le voyage à travers les richesses et les multitudes de l'Ayurveda Sourire continue et nous allons explorer deux thèmes interconnectés, très puissants et fondamentaux. Nous allons parler du pardon et de la résilience. Le pardon et la résilience sont essentiels dans ma pratique de l'Ayurveda Sourire car ils permettent de s'apaiser, d'ouvrir le cœur, de se libérer de ce qui n'est plus utile, de ce qui est source de malaise pour pouvoir avancer avec sérénité. Mais ça permet également d'apprendre à se pardonner et à être résilient, parce que c'est aussi ça, accueillir tout ce que l'on est, les fluctuations de la vie, sans résistance quand on ne contrôle rien. Alors je dis bien sans résistance parce que justement, c'est la résistance qui est la source du mal-être. À vouloir en fait nager toujours à contre-courant, on s'épuise et on consomme son énergie vitale. Et alors, c'est là que les troubles apparaissent, qu'ils se cristallisent dans le corps, dans les mémoires cellulaires pour laisser place à la souffrance. L'attitude et la vision que l'on décide d'adopter face à notre quotidien sont très importantes parce qu'en fait, en Ayurveda, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les maux du corps sont les résultats des maux de l'esprit. Donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, comme le disait très justement Jacques Salomé. Se pardonner à soi, c'est déjà une aventure, c'est une transmutation personnelle qui est parfois initiatique, qui peut d'ailleurs nous permettre d'avoir une meilleure estime de soi, de se délaisser de la colère, de la culpabilité, du ressentiment ou de la tristesse qui entrave notre chemin. C'est aussi une voie de transformation pour nos blessures. La résilience, c'est dire oui au flux de la vie, pour la parcourir avec confiance et avec foi. C'est en réalité danser avec son impermanence. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés un homme lumineux et inspirant qui a un grand cheminement personnel et spirituel, un parcours très riche. Le pardon et la résilience font partie intégrante de son quotidien et il aide aujourd'hui un grand nombre de personnes à s'aimer mieux, avec entre autres des cercles de pardon et des dons du pardon. Bonsoir Roger Baumann.
Bonsoir Gwenaël, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Et j'espère que ce que je vais pouvoir partager va être une source d'inspiration et de cheminement pour chacun, pour aller vers toujours plus de joie, toujours plus de connexion avec la vie et comme tu as dit aussi, de résilience et d'acceptation de chaque chose qui peut nous arriver et d'en sortir grandi. Donc voilà, très heureux d'être là. Merci.
Ah mais écoute, avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Et c'est certain que de toute façon, tout ce que tu vas nous dire va être très inspirant, j'en suis sûre. Et puis la joie ici a toute sa place. Hein. On est dans l'émission de l'Ayurveda Sourire. Donc justement, le mantra de l'Ayurveda Sourire, c'est la joie du cœur et la santé du corps. Donc on est en plein dedans, Roger.
Tout à fait.
Alors déjà, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le pardon, en fait, et puis ce qui ne l'est pas, d'ailleurs?
Le pardon, c'est un de ces mots, de ces concepts qu'il est important de redéfinir. Parce que comme, je ne sais pas, la vérité, l'amour, l'acceptation, la justice, enfin, il y a chaque personne peut avoir sa propre définition. Et cette définition peut aussi être enfermante ou peut aussi être un obstacle pour arriver jusqu'à ce pardon qui peut parfois être tant désiré. Donc, pour le redéfinir, moi, je dirais que le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. C'est un lâcher-prise qui s'opère en soi pour lâcher des couches de ressentiment, d'amertume, de toutes ces émotions qui sont désagréables, qui sont douloureuses, qui font partie de ces émotions de souffrance et qu'on veut à un certain moment lâcher pour laisser la place à de nouveau quelque chose de plus léger, quelque chose de plus lumineux en nous.
Mmh. C'est une belle définition déjà pour commencer. Et c'est vrai qu'en plus, cette guérison du cœur, cette ouverture du cœur, moi tout de suite, ça me fait penser aussi à cette ouverture aussi du quatrième chakra, hein, le chakra du cœur, Anahata, qui en fait parle de compassion, d'acceptation de soi et d'amour. Donc on est complètement dedans.
Oui, tout à fait. Ouais. Et là, je parlerais plutôt de guérison du cœur que d'ouverture du cœur. Je pense qu'on est né, qu'enfant, on était avec le cœur grand ouvert, qu'il n'avait pas besoin, on n'avait pas besoin de faire certaines pratiques quand on était petit pour pouvoir ouvrir son cœur. Voilà, je pense pas que c'était possible qu'il soit plus ouvert que ça. Mais avec les années, avec les expériences, avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, enfant, ado, adulte, voilà, on a vécu des événements qui ont laissé des traces, des marques qui petit à petit ont fait que le cœur s'est refermé pour se protéger. Quelque part, c'était une stratégie pour notre bien, pour nous préserver de souffrances futures, de douleurs futures. Donc, c'est pas à blâmer cette fermeture du cœur, surtout pas tomber dans une culpabilisation ou dans le blâme de ça. Et en même temps, de trouver des outils pour réussir à aller guérir ces blessures qui font partie de nous tous. Et les ateliers que je propose sont un des outils qu'il y a dans cette palette d'outils de thérapie alternative, de médecine alternative qui existe actuellement pour aller guérir ces blessures.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est très juste parce qu'en fait, en grandissant, c'est vrai qu'on a cette tendance en fait à fermer un peu son cœur et à être un peu en fait, coupé de toutes ces émotions en fait de joie, de simplicité, d'innocence en fait qu'on avait quand on était enfant. Et on dit d'ailleurs en fait que le cœur en fait c'est un modulateur. Hein, en Ayurveda et dans les sciences spirituelles indiennes, c'est le siège de l'âme et en fait c'est aussi un modulateur entre les trois chakras du bas et puis ceux du haut, en fait, hein, et les trois autres du haut. Donc, c'est aussi comment j'arrive à transformer, en fait, ou à mettre en lien, plutôt, je dirais même, tout ce qui est relié à mes émotions et à mon mental. Donc, voilà. Et quand c'est complètement fluide, c'est ce que tu dis. Un enfant, en fait, il ne se pose pas de questions. Il est dans les émotions, dans son analyse, mais il fait, en fait. Il vit sa vie, il est dans la joie. Et il est juste lui. Et ça suffit. Alors que quand on commence en fait à grandir avec des croyances, avec des schémas, des conditionnements, tout de suite en fait on ferme en fait cette porte et on reste soit beaucoup dans l'émotionnel, soit beaucoup dans le mental. Et en fait c'est un peu la quête du quotidien maintenant de beaucoup de personnes en fait que de reconnecter en fait ces deux sphères là.
Ouais, c'est de faire la réunion, c'est de sortir de l'âge de la séparation. Parce que certaines pratiques comme ça spirituelles peuvent rejeter tout ce qui vient de la tête, l'ego, le mental, etc. Et puis non, je pense qu'il y a besoin de réunifier, il y a besoin de retrouver cette globalité, le côté holistique de tout notre être. Sortir de la séparation et entrer dans l'ère de l'unité, de l'unification. Et pour ça, c'est important aussi de remettre en question. Beaucoup de personnes connaissent certainement les quatre accords Toltec. Moins de personnes connaissent le cinquième. Le cinquième qui dit « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. » Et la première chose, c'est « Soyez sceptique. » Donc, c'est remettre en question. Et je pense qu'on n'a pas assez l'habitude de remettre en question. Quand je vois tous les, entre guillemets, les fake news qui circulent, et puis combien de fois je reçois des fois des choses, que ça soit sur les réseaux sociaux ou comme ça, des infos qui sont transmises sans avoir été remises en question. Mais je vois que, l'être humain a une propension à croire tellement facilement des choses, parce que c'est écrit, parce qu'il y a une vidéo, parce que quelqu'un en parle. Donc forcément, c'est vrai. Et puis, dès que ça touche aussi à des sphères, sensible en nous, par rapport à la peur, par rapport à d'autres choses, c'est parfois difficile d'avoir cet esprit critique et de remettre en question les informations qui nous arrivent. Et c'est remettre en question aussi nos propres croyances, surtout ce chemin de libération, de guérison du cœur, passe aussi par des prises de conscience. Vraiment un nettoyage et puis voir que finalement, toutes mes souffrances passent à travers le filtre de mes perceptions, de ma vision, de comment je vois les choses. Parce qu'un événement en tant que tel, quelque part, il est neutre. Il n'est pas forcément désirable, mais il n'a pas de charge émotionnelle. Il n'est pas chargé de quelque chose. Par contre, moi, à travers mes croyances, à travers mes blessures, à travers mes différents filtres, je vais mettre une étiquette, un jugement, quelque chose sur cet événement ou cette situation qui vont après générer de la souffrance, du rejet, de la colère, quelle que soit l'émotion ou l'attitude qui va émerger de moi. Donc, c'est vraiment cette vision qui a changé. Et à travers cette vision, un des facteurs essentiels dans cette guérison, c'est la prise de responsabilité de notre monde émotionnel et affectif. C'est quelque part, enfin c'est pas quelque part, c'est sortir du rôle de victime. C'est arrêter de se voir comme une victime. Peut-être que j'ai subi un événement, une situation que je n'ai pas consciemment choisi peut-être. Après, qu'est-ce que moi je fais de ce qui m'a été fait ou de ce que j'ai vécu ? Ça, c'est ma responsabilité. L'autre personne, si une personne est incluse dans la problématique ou dans la situation, l'autre personne restera toujours responsable de ses actes. Par contre, je suis responsable de ma blessure, de la guérison de mes blessures, pardon. Je ne suis pas responsable peut-être de l'événement qui a fait émerger une blessure, mais je suis responsable de la guérison. C'est comme si on prend une analogie, je me promène dans la rue et puis quelqu'un que je ne connais pas me donne un coup de couteau. Et puis voilà, j'ai une blessure, j'ai une plaie. Alors si c'est pas trop grave, je sais que je vais rentrer chez moi, je vais mettre un peu de désinfectant, je vais mettre un sparadrap, et je sais que mon corps va guérir tout seul. Ouais, belle, un lapsus.
Révélateur. Oui, lapsus, c'est très joli.
Je sais que mon corps va guérir tout seul, et c'est plus grave, je vais appeler une ambulance, etc. Et par contre, par rapport à des blessures du cœur, cette fois, la tendance qu'il peut y avoir, c'est que si je suis blessé, si je suis agressé, c'est comme si pour la blessure physique, quelqu'un me donne un coup de couteau et tout ce que je fais, c'est m'asseoir sur le trottoir, c'est de pleurer, c'est de désespérer et attendre que ce soit la personne qui m'a blessé, qui revienne avec le désinfectant, avec un sparadrap. Si c'est plus grave, que ce soit la personne qui m'a blessé, qui vienne pour me recoudre ma plaie, on comprend très bien que ça, c'est complètement absurde par rapport aux blessures du corps. Par contre, par rapport aux blessures du cœur, là, on peut parfois avoir cette attitude. C'est d'attendre que ce soit la personne qui nous a blessés qui vienne s'excuser, qui vienne me demander pardon pour pouvoir enfin guérir mes blessures, les blessures qui sont en moi. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de l'autre pour pouvoir guérir nos blessures. C'est quelque chose qui se passe en nous, c'est quelque chose d'intime qui se passe vraiment que dans notre fort intérieur. Donc, cette prise de responsabilité et sortir du rôle de victime, elle est essentielle. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a quelque chose de, je dirais, de confortable d'être dans le rôle de victime. C'est que j'y peux rien. Si je m'estime victime, c'est pas de ma faute. Si je souffre, c'est pas de ma faute. C'est l'extérieur, c'est quelque chose à l'extérieur de moi qui est responsable de ma douleur, de ma souffrance. Mais par contre, là, je donne tout pouvoir à l'autre.
Non, mais c'est sûr.
Et donc voilà, ça c'est vraiment une étape qui est indispensable à la libération, à la guérison de ces blessures. C'est de sortir du rôle de victime. Oui, l'autre est pardonné, ce n'est pas cautionné. Ça c'est très important. Ça peut être un des obstacles que je rencontre fréquemment dans mes ateliers, c'est de penser que lorsque je pardonne, c'est comme si je cautionnais l'acte de l'autre. Et non, ça il y a une distinction très claire et très nette à faire entre cautionner et pardonner. Donc, je peux avoir pardonné, c'est-à-dire je peux avoir guéri mes blessures du cœur et en même temps, je peux faire appel à la justice. Si j'estime que ce qu'il m'a été fait n'est pas acceptable, je peux tout à fait porter plainte et mettre l'autre face à ses responsabilités peut-être judiciaires. Donc, c'est pas du tout antinomique. Mais par contre, j'irai pas dans un esprit de vengeance ou dans l'espoir ou avec une volonté de faire mal à l'autre. Mais par contre, j'irai parce que j'estime, je fais aussi confiance à mon discernement, à mon esprit, à mon intellect, à mon ego, à mon mental, pour prendre après la bonne décision par rapport à ce que j'estime qui est juste pour moi, peut-être juste pour moi, et également peut-être aussi parce que j'estime que cette personne-là, ce qu'elle m'a fait peut aussi le faire à quelqu'un d'autre, et que c'est pas acceptable, et pas souhaitable, pas désirable, et que cette personne-là a besoin d'être mise aussi face à ses responsabilités, que ça peut aussi l'aider quelque part à faire une prise de conscience des fois que ce qu'elle a fait n'est pas dans le domaine du tolérable dans notre société humaine.
Oui, c'est prendre un peu de distance aussi, je pense, et puis être un peu observateur de ce qui se passe, même quand on est complètement en fait dans ce qui se passe, hein, mais essayer d'avoir un petit peu de recul. En Ayurveda, c'est pareil, la responsabilité, elle est fondamentale. C'est une médecine de la responsabilité où on est acteur de sa vie. Et en effet, la victimisation, ça nous met en fait dans une espèce d'énergie d'inertie assez basse, en fait, de tamas, qu'on appelle en Ayurveda, qui est, qui est assez néfaste en fait, hein, et puis qui crée, qui peut créer beaucoup de troubles aussi bien au niveau du corps que de l'esprit. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu en fait, en quelques mots, qu'est-ce que le pardon un peu, et aussi du coup, qu'est-ce qui ne l'est pas de façon un peu indirecte. Mmh. Quel est le lien que tu pourrais faire en fait pour nos auditeurs entre se pardonner à soi et pardonner à l'autre? Parce que là, tu as un peu touché à cette notion. Comment en fait on peut faire un lien entre le pardon personnel et le pardon en fait à travers d'autres personnes ou des situations qui peuvent se passer dans notre vie.
Mmh. Ce que j'aimerais dire, c'est que il y a même moi après tu vois 8 ans où j'anime des ateliers, il y a toujours quelque chose de mystérieux dans tout ça et qui fait peut-être aussi la beauté de la vie et que des fois, c'est difficile de tout expliquer. Puis rationnellement, on aimerait bien sûr pouvoir trouver quelque chose qui nous libère à l'instant, tout de suite, ici et maintenant. Et que ma foi, des fois, et même souvent, je dirais, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables ou quelque chose comme ça, enfin bien mystérieuse en tout cas. Et que le pardon, c'est pas quelque chose qui, pour moi, se décide avec la conscience ou avec l'ego ou le mental. C'est pas une question de volonté, parce que hein, des fois on dit ben celui qui veut il peut, mais pour moi c'est quelque chose d'assez mystérieux, que quelque part tout ce qu'on peut faire c'est progresser dans ce sens en essayant de mettre en place les différents éléments qui vont faire qu'à un certain moment le pardon peut opérer à travers moi. Parce que des personnes que je vois à mes ateliers ils viennent avec des attentes, avec une envie très précise parfois, qu'ils veulent absolument pouvoir pardonner ou pouvoir se libérer ou pouvoir guérir par rapport à une certaine personne ou une certaine situation. Puis finalement, ben, on fait l'atelier et puis ils ont pu ressentir des libérations très grandes. Mais peut-être, par contre, ça n'a pas été par rapport à la personne pour laquelle ils attendaient ce pardon. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'était inutile ou que ce n'était pas juste ce qui s'est passé. Et que des fois, il y a besoin de encore d'autres choses que je ne peux pas, moi, dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça pour y arriver. Et peut-être qu'il faut faire 2, 3, 4, 5, 6 ateliers pour finalement pouvoir arriver à cette guérison par rapport à un sujet ou une personne en particulier. Dans les ateliers que j'anime, c'est principalement, je dirais, pour la guérison ou pour le pardon par rapport à d'autres personnes ou des situations extérieures à nous. Il y a aussi une partie qui est en lien avec le pardon vis-à-vis de soi-même, mais je vois ou j'observe aussi dans ma propre vie, dans ma propre expérience, que par rapport à l'extérieur, je crois que j'ai guéri beaucoup de blessures et que j'ai conscience, en tout cas maintenant, que plus rien à l'extérieur ne peut me faire souffrir. Ça, j'aime beaucoup aussi cette idée-là, c'est que rien à l'extérieur ne peut me faire du mal, ne peut me faire souffrir. Ça, c'est mon job et je m'en occupe bien assez bien tout seul. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas souffrir par rapport à des choses que je vais vivre dans l'extérieur, parce que j'ai encore des blessures en moi, même si j'en ai déjà guéri beaucoup, je vais jusqu'à la fin de mes jours avoir des conditionnements, avoir encore des blessures qui ne vont pas être guéries. Par contre, j'apprends aussi à vivre avec, j'apprends aussi à les accepter, à accepter que tous les jours, je peux avoir mes moments d'anxiété, mes moments d'angoisse, mes moments de peur par rapport à plein de choses, mes projections, enfin voilà. Je reste quand même soumis aux influences de mon mental, de mon ego, qui va forcément générer des peurs et des anxiétés, des angoisses. Par contre, j'arrête de me battre aussi contre ça. Et dans Conversation avec Dieu, il y a une belle phrase qui dit « Ce à quoi je résiste persiste ».
Exactement, c'est ça.
Et lorsque je me bats contre ça, contre le fait de ne plus vouloir souffrir, ben, je vois que ça augmente, que ça s'accentue, que ça prend de plus en plus, que ça se cristallise quelque part en moi. Et lorsque j'arrive à accepter que, OK, je vis quelque chose qui n'est pas agréable, je vis quelque chose de douloureux, c'est pas souhaitable, c'est pas mon désir, c'est pas mon souhait, mais c'est là. C'est issu de mes conditionnements, j'en sais rien, de mémoire transgénérationnelle, de vie passée, d'expériences que j'ai vécues dans mon enfance. C'est là. Et moins j'arrive à résister à ça, plus je me rends compte que ça passe rapidement, que ça laisse de nouveau l'espace à quelque chose de plus léger, de plus joyeux d'arriver. Et pareil, quand c'est agréable, quand je suis dans la joie, quand je suis dans l'émerveillement, dans la célébration, j'essaye de ne pas d'essayer de figer ça non plus. Je vois aussi, plus j'essaie de figer ça, plus ça s'échappe et ça passe de nouveau plus vite à l'anxiété ou à autre chose. Donc, j'essaye vraiment de vivre chaque moment, d'accueillir quand c'est agréable et d'accueillir également quand c'est désagréable sans essayer de figer les choses. Et pour illustrer ça, il y a une petite citation que je partage quasiment dans tous les ateliers. C'est celle qui dit qu'un jour, un maître zen a dit « Avant l'éveil, j'étais dépressif. Après l'éveil, j'étais toujours dépressif, mais ce n'était plus un problème. » Et pour moi, ça peut peut-être paraître absurde, mais pour moi, il y a une profondeur qui est très grande dans cette citation. C'est qu'un jour, enfin, il y a 12, 13 ans en arrière, quand j'ai commencé ce chemin de spiritualité, je me suis dit, le jour où je serai éveillé, je serai tous les jours dans la joie, dans l'émerveillement, dans la gratitude, dans tout ça. Et plus jamais j'allais souffrir, être dans la tristesse, la colère, le rejet, etc. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'est une illusion, que c'est un fantasme, que oui, j'avance dans cette direction, j'ai toujours cet objectif-là d'être de plus en plus dans l'amour, d'être de plus en plus dans la joie, dans le don, dans le partage, et en même temps que jusqu'à la fin de mes jours, je vais quand même encore avoir des conditionnements qui vont me faire vivre certains moments douloureux, difficiles, et que c'est OK, que je peux aussi vivre ça sans le rejeter. Alors bien sûr qu'il y a des moments de souffrance, il y a des moments douloureux peut-être pour certaines personnes qui sont tellement énormes qu'elles ne peuvent pas continuer à vivre avec ça, que c'est insupportable. Et que bien sûr qu'il y a des outils qui permettent d'aller de plus en plus vers la légèreté, la joie et à cette guérison des blessures du cœur. Et en même temps, c'est aussi accepter notre réalité, les choses qui arrivent et puis... Parfois, on fait aussi d'une montagne, d'une taupinière, une montagne. Et puis, parfois aussi, entre guillemets, relativiser, prendre du recul, changer de regard. Et ce travail de conscience aussi, de compréhension des choses, pour moi, est extrêmement importante. De s'observer, de voir aussi qu'est-ce qui se passe en nous et de prendre du recul,
ouais. Ouais, non mais c'est clair. En fait, c'est vrai que c'est important d'être dans la fluidité, justement la non-résistance. Quand on parle du flow, en fait, c'est un peu ça aussi. Laisser couler les choses, en fait. Enfin, se laisser porter par la vie avec confiance. L'acceptation et la bienveillance, c'est quand même deux grands piliers, en fait, de l'amour de soi. Évidemment, jusqu'à la fin de nos jours, hein, moi c'est ce que je dis tous les jours en consultation à mes pépites, jusqu'à la fin de nos jours, on apprend tous les jours, en fait, un petit peu plus à s'aimer. À s'aimer, c'est s'accepter avec toutes ses facettes, en fait, ses ombres et ses lumières. On n'est jamais que lumière, même si moi, je prône la joie, tout ça, je parle tout le temps aussi des ombres. C'est vraiment important de ne pas essayer de se changer, justement, en fait, de potentialiser ce qui est déjà là, parce qu'en fait, tout est parfait. C'est juste que, voilà, il suffit parfois de changer ses lumières.
Oui, bien sûr. Quand tu dis que tout est parfait, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé depuis plusieurs années. Tout est parfait. Ça ne veut pas forcément dire que tout est désirable, mais tout est parfait dans le sens que tout a un sens, tout est juste, tout est ordonné d'une manière qui fait du sens et que je peux utiliser ou que je peux arriver à accepter et à en ressortir grandi de chaque expérience, de chaque événement que je vis, pour autant que j'aie cette capacité de pouvoir voir quel est le cadeau, quel est le précieux. Derrière chaque chose, il y a quelque chose de précieux pour m'aider à m'aimer davantage, pour m'aider à m'accepter, pour m'aider à m'honorer, pour m'aider à me respecter davantage.
Oui, tout à fait. Et du coup, alors le pardon, on a un petit peu survolé ce que c'était, évidemment, pour pouvoir vraiment mieux le comprendre, parce que c'est pas toujours simple, en fait, d'expliquer ce qu'est le pardon, ce qui n'est pas. Il faut vraiment, je pense, le mettre en pratique, hein, c'est mettre le pardon en action. Donc, comment, en fait, on peut mettre le pardon en pratique? Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait? Comment on peut justement transformer ses blessures, guérir son cœur, enfin, voilà.
Alors, il existe plein d'ateliers, plein d'outils. Ça peut passer à travers un livre, ça peut passer à travers une vidéo, une rencontre. Chaque événement peut être un déclencheur qui peut nous aider qui peut aller dans le sens de la guérison de nos blessures du cœur. Maintenant, les ateliers, par exemple, que j'anime, sont des outils qui ont été transmis par Miguel Ruiz, Don Miguel Ruiz, au Mexique, à Olivier Clerc, qui a été le créateur, le fondateur de cette méthode, de cet outil qui s'appelle les sacs de pardon et le don du pardon, ces deux ateliers distincts.
Alors peut-être juste repréciser à nos auditeurs que Don Miguel Ruiz est l'auteur en fait des quatre accords Toltec.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Pour ceux qui ne le savent pas.
Et Olivier Clerc, en 1999, a été au Mexique pour faire un voyage, pour aller rencontrer la personne, parce que lui, c'est Olivier Clerc qui a traduit les quatre accords Toltec et la maîtrise de l'amour, entre autres. Donc, il voulait rencontrer la personne. Et là-bas, Miguel lui a fait vivre cette expérience de pardon, ce cercle de pardon, quelque part, que Olivier a mis sur place après, qui lui a profondément changé sa vie, bouleversé et fait changer de regard par rapport aux choses. Et Olivier, il lui a fallu 10 ans pour écrire un livre, pour finalement sortir ce livre qui s'appelle « Le don du pardon ». Et à la suite aussi pour pouvoir créer les ateliers, « Le don du pardon » et les sacs de pardon, qui sont des outils pour que chacun puisse arriver dans cet espace de guérison et de libération qu'on espère tous. Et c'est vraiment, je suis à chaque fois émerveillé par ce qui se passe dans les cercles de pardon. Un cercle de pardon, c'est sur 2 ou 3 heures. Et en 2 ou 3 heures, entre des personnes qui ne se connaissent pas du tout, c'est juste fantastique et incroyable, et encore très mystérieux pour moi, toutes les guérisons et les libérations qui se passent. Donc c'est vraiment un outil, une expérience à vivre. Tu partageras après les différents liens aussi, comment trouver des sacs de pardon, le don du pardon le plus proche de chez soi, parce qu'il y en a en Suisse, en France, principalement dans les pays francophones.
Mmh. Ok, mais tout à fait, on va revenir dessus. De toute façon, tout est déjà dans la description de l'émission, enfin en tout cas ton site sur lequel il y a déjà toutes ces informations là, mais tout à fait, en effet. Alors, qu'est-ce que, justement, maintenant, on va peut-être passer, parce que c'est la fin, on arrive déjà à la fin de notre émission, donc peut-être parler de la résilience, puisque la résilience a beaucoup, beaucoup de sens, et puis elle est reliée au pardon. Qu'est-ce que la résilience pour toi, Roger ?
La résilience, pour moi, est très liée à l'acceptation et le fait de rebondir dans une situation. C'est le fait de pouvoir, quelque part, se relever d'une expérience qu'on a pu vivre, qui a pu être très douloureuse peut-être à un certain moment donné, et de réaliser, comme j'ai dit avant, qu'il y a quelque chose de, comme tu as dit aussi, de parfait, de juste dans chaque expérience, et c'est d'en ressortir grandi et non pas fermé, parce que certains, à travers différentes expériences, peuvent être plus aigris, peuvent être plus renfermés, peuvent avoir le cœur encore plus blessé, et quelque part qui leur permet encore moins d'apprécier, de jouir de la vie, de jouir de notre quotidien, de tout ce qu'on peut avoir, de tout ce qu'on peut expérimenter dans cette vie-là. Donc c'est de pouvoir vivre les événements en gardant notre cœur ouvert, ou si le cœur a été fermé à un certain moment, d'apprendre à pouvoir guérir ce cœur qui a été blessé, pour pouvoir de nouveau être dans la joie, dans l'acceptation de ce qui est.
Ouais. Oui, oui, non, mais tout à fait, parce qu'en fait, pour jouir de la vie, et puis pour être vraiment dans une voie du bonheur, en tout cas, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu aussi sortir de la victimisation et accueillir, en fait, ce que la vie propose, puisque finalement, même si c'est difficile à entendre ou à comprendre ou même à vivre, en réalité, la vie, elle ne met sur notre chemin que des obstacles ou que des expériences que nous sommes capables de surmonter. Mmh. Ça, c'est pas toujours simple. Hein. Moi, je le vois en consultation. Il y a des personnes qui ont des maladies très très graves, donc évidemment, qui vont mourir en fait, hein, parce que a priori, il y a aucun traitement. C'est des maladies en fait mortelles. Et souvent, en fait, c'est ces personnes-là qui ont en fait une vision de la vie, une résilience en fait beaucoup plus élevée, beaucoup plus développée en fait que d'autres, parce que en fait elles se sont rendues compte que toutes ces épreuves leur ont apporté quand même des choses et que ça a du sens en fait sur leur chemin. Ouais. Et que du temps qu'il leur reste, elles ont envie en fait d'en faire une œuvre d'art en fait, de faire une œuvre d'art, mm-hmm. et pas justement en fait de la plainte, de la victimisation. Ouais. Alors toi, t'es quand même très bien placé pour pouvoir parler de tout ça aussi, parce que t'as une histoire et puis un parcours qui sont très très riche, hein, comme je disais en début d'émission, mais surtout c'est qu'il y a un événement important qui s'est passé dans ta vie en 2011 et qui t'a plongé en fait, hein, directement dans la résilience, puisque tu as eu un accident de parapente et maintenant tu es en fauteuil roulant. Donc, comment donner du sens en fait à la maladie et aux accidents pour toi?
Je crois que oui, on ne peut pas faire de généralité. Comment est-ce qu'on va vivre une expérience, que ce soit un accident, que ce soit un deuil, que ce soit un licenciement, que ce soit une séparation. Chacun, on va le vivre complètement différemment. Et moi, je dirais que dans cette expérience-là, j'ai presque pas eu besoin quelque part de la résilience ou de ça, parce que j'ai tout de suite, mais quand je dis tout de suite, c'était 5 minutes après l'accident. J'étais dans un bateau qui me ramenait au bord de l'eau. Et là, j'étais dans un état de grâce quelque part où je me rendais compte, où j'étais comme si un poids s'était enlevé de mes épaules et où je me suis dit, ah, à partir d'aujourd'hui, je vais être plus heureux, je vais m'aimer davantage, je vais aimer la vie davantage. Quelque part, ça m'était égal des conséquences physiques de ce que j'ai vécu, de ce que ça allait m'amener à vivre, de la douleur physique. Je savais que certainement physiquement, j'allais vivre des moments qui allaient être très durs, très douloureux physiquement. Et en même temps, c'était secondaire. Je sentais qu'il y avait un tel potentiel de guérison émotionnelle au niveau de l'esprit, de l'ego, du mental, du cœur, que finalement, voilà. Le côté physique m'importait peu, finalement. Donc, moi, j'étais dans cet état de grâce, de bénédiction, au moment même, quasiment, où ça m'est arrivé. Mais je sais que c'est très inhabituel. Je sais que très peu de personnes vivent une expérience comme ça et puis peuvent tout de suite se rendre compte de, quelque part, des bénédictions cachées qui sont à travers chaque expérience, à travers chaque chose qu'on vit. Et que là aussi, il y a la notion de temps. C'est important aussi de se laisser du temps. Elisabeth Kübler-Ross, une experte en soins palliatifs, avait énoncé les 5 étapes du deuil. Je me souviens plus par cœur, mais marchandage, manipulation, colère, rejet, refus, enfin, jusqu'à arriver à l'acceptation. Mmh. Et pour certaines personnes, par rapport, peut-être la même situation, par exemple, un parent qui décède ou un enfant qui décède, ou certaines personnes, en 2 mois, peut-être, elles ont fait toutes ces étapes. Et d'autres, au bout de 2 ans, 3 ans, elles n'y sont toujours pas arrivées. Et c'est accepter aussi qu'on a un rythme personnel qui appartient à chacun et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est aussi d'accepter de ressentir, même si c'est extrêmement intense, même si c'est extrêmement douloureux, les émotions, les sentiments qui peuvent nous traverser. C'est aussi accepter un moment de se laisser emporter par ces émotions, oser plonger dedans, pour les vivre pleinement, ne pas les voir comme des ennemis. Ce n'est pas parce que je suis dans une phase dépressive ou colérique ou en colère, ouais, ou n'importe quoi, que c'est mauvais, que c'est mal. Essayez de sortir de ce jugement-là. Après, ce n'est pas le but de rester dans des états dépressifs pendant des années, mais de nouveau, ce à quoi je résiste persiste. Si je résiste à cette colère ou cette tristesse qui s'empare de moi, qui me traverse, il y a de fortes chances que je vais y rester embourbé quelque part plus longtemps. Donc, c'est accepter, oser aussi, avoir le courage aussi de se laisser emporter et de plonger aussi dans ces émotions-là qui peuvent être très douloureuses, les sources voilà, de beaucoup de souffrance et que je ne souhaite à personne, que je ne dis pas que c'est bien, que ça arrive ou comme ça, mais je pense que dans cette incarnation, s'étant incarné sur cette terre, on est venu là aussi pour expérimenter tout le spectre des émotions et des sentiments qui font partie de notre condition d'être humain. Et on a besoin aussi d'expérimenter ce qui est douloureux pour faire l'expérience de ce qui est agréable. C'est dans cette dualité aussi, quelque part, qu'on peut faire l'expérience de la joie, de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. C'est en faisant l'expérience de ce que ça n'est pas qu'on fait l'expérience de ce que ça est. Donc, accepter qu'il y a des phases, des moments où ça peut être très douloureux et essayer de garder confiance, foi, que tout a un sens et qu'à un certain moment, la lumière entrera de nouveau par la fenêtre et puis que quelque chose de plus léger va apparaître de nouveau et va s'installer aussi de nouveau.
Exactement. Mais c'est ça, de la destruction naît la création, de l'ombre naît la lumière. C'est tout à fait ça. Et puis, de toute façon, voilà, c'est une incarnation, c'est aussi comment j'arrive à accueillir en fait ce qui est, à accueillir qui je suis. Comment j'arrive à avoir le courage d'être moi-même. Finalement, il n'y a rien de plus difficile que ça. Mais pour ça, il faut déjà aller plonger dans ses profondeurs. C'est ce que tu disais, c'est un processus, on est tous différents. Et l'amour de soi, c'est vraiment un cheminement. Et il n'y a pas de jugement, en effet, à avoir, quel que soit en fait l'événement, hein, qu'il soit à des degrés considéré comme plus ou moins grave. Finalement, ça ne reste qu'une considération. C'est toujours encore une question de vision personnelle et puis d'évolution personnelle.
Oui.
En tout cas, voilà, la résilience, c'est un grand chemin. Et voilà, tu es une personne très inspirante pour pouvoir parler de ça, en plus des dons et des cercles du pardon. Donc, de toute façon, mes chères pépites, en effet, si jamais vous souhaitez approfondir le pardon, il faut vraiment le mettre en pratique. Donc, si jamais vous êtes en Suisse, parce que Roger est en Suisse, hein, donc si vous voulez le rencontrer en vrai, c'est bien la Suisse. Hein, mais bon, si vous êtes en Suisse, donc vous pouvez rencontrer Roger en vrai pour des consultations individuelles. Vous pouvez également faire ces cercles de pardon et ces dons du pardon. Mais je vous rassure, si jamais vous êtes en France ou ailleurs, vous pouvez complètement opter pour des consultations individuelles en ligne avec Roger et découvrir aussi un cercle ou un don du pardon dans votre région. Donc, pour avoir les informations, en tout cas, sur les activités de Roger, évidemment, vous avez tout ça en description de l'émission, comme toujours. Le site, c'est cercle-pardon.ch. Mais si jamais, donc, vous n'êtes pas en Suisse et que vous souhaitez approfondir, vous pouvez bien sûr découvrir les cercles du pardon dans votre région ou le don du pardon. Et là, vous avez les informations sur le site cercle-de-pardon.fr, cercle au pluriel, ou alors don-du-pardon.fr au singulier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, Roger ? Un petit mot de la fin pour nos auditeurs ?
L'ego dit, quand tout sera en place, je trouverai la paix. L'âme dit, trouve la paix et tout se mettra en place. Voilà, je voudrais conclure sur ça et puis que l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a absolument rien à changer. Et c'est en allant prendre soin de notre être intérieur, de tout ce qui fait partie de nous à l'intérieur, que notre monde extérieur changera. Je dis pas qu'il y a rien à l'extérieur à changer, mais que c'est d'abord en nous que les changements doivent avoir lieu pour après pouvoir se refléter à l'extérieur. Donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver ce chemin de paix avec soi-même, d'amour avec soi-même, d'acceptation de soi. Et pour pouvoir après le rayonner autour de lui ou de elle, pour que ce monde trouve un peu plus de paix, de collaboration et de partage authentique.
Wow, mais c'est une fin parfaite. En plus, c'est exactement ce qu'est l'Ayurveda. C'est le propre de l'Ayurveda. Donc, un très joli mot de la fin pour pouvoir conclure cette émission. Donc si jamais vous souhaitez approfondir en tout cas tout ce qui est Ayurveda, mes chères pépites, vous pouvez bien évidemment prendre rendez-vous avec moi pour une consultation 100% personnalisée, donc en présentiel dans mon cabinet ou en ligne pour ceux qui ne peuvent pas avec toutes les actualités, tout ce qui est en train de se passer. Vous pouvez également découvrir mon livre L'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps aux éditions Marie-Claire en version papier ou en version audio sur Audible, et découvrir également tous mes articles et vidéos sur mon site, ma page YouTube, ou à travers les réseaux sociaux sous Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A, Ayurveda. Merci infiniment, Roger, pour ce beau partage.
Avec grand plaisir. Merci, Gwenaëlle, pour l'invitation. Et bonne nuit à tous les auditeurs et auditrices.
Et merci infiniment aussi, mes pépites, pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.